Lizzie présente Quoi qu'il arrive de Daniel Steele. Lu par Sylvain Agaès. À mes enfants adorés. Bitty, Trevor, Todd, Nick, Sam, Victoria, Vanessa, Max et Zara. Puissiez-vous toujours être touchés par la grâce, guidés par la sagesse et baignés d'un amour aussi vaste que le mien. Avec toute mon affection. Maman. Daniel Steele. Si jamais demain, nous n'étions pas ensemble, souviens-toi bien. Tu es plus courageux que tu ne le crois, plus fort que tu en as l'air, et plus intelligent que tu ne le penses. Mais le plus important, même si nous sommes séparés, je serai toujours avec toi. D'après Winnie l'ourson 2, Le Grand Voyage, Walt Disney Pictures. Chapitre 1. Par une journée étouffante du mois de juin, Kate Madison traversait Greenwich, dans le Connecticut, au volant de sa vieille Mercedes. Arrivée dans Midpoint Drive, elle suivit les indications données par ses clients et se retrouva devant un haut portail en fer forgé. Elle pressa le bouton de l'interphone et une voix masculine lui répondit. Un instant plus tard, les grilles s'ouvrirent. Kate engagea lentement sa berline dans la superbe propriété, le long d'une allée bordée d'arbres majestueux. Le parc était vraiment spectaculaire. Bien qu'elle ait souvent été amenée à travailler dans les environs, Kate ne connaissait pas cette belle demeure. L'ancienne propriétaire était une grande dame qui avait fréquenté les soirées mondaines de la région pratiquement jusqu'à sa mort, à l'âge de 92 ans. Plus jeune, elle avait été une figure éminente de la haute société new-yorkaise, une femme au grand cœur, aussi connue pour sa philanthropie que pour son élégance. Elle avait figuré pendant des années au palmarès des femmes les mieux habillées de différents magazines. Et même devenue âgée, elle portait avec beaucoup d'allure son extraordinaire collection de haute couture française. Comme elle n'avait pas eu d'enfant, ses deux nièces se chargeaient de vendre sa garde-robe. Organiser la succession de leur tante s'était révélé pour elle plus délicat qu'elle ne s'y attendait. D'autant que les deux femmes avaient maintenant dépassé la soixantaine et vivaient dans des villes différentes. Leurs époux respectifs s'occupaient de la liquidation de la propriété. La vente aux enchères de la plupart des objets précieux était déjà réglée. Les bijoux, chez Sotheby's, les meubles, chez Christie's. Le reste avait été légué à des musées ou vendu à des particuliers par l'intermédiaire d'un marchand d'art. À présent, il ne leur restait plus qu'à s'atteler aux vêtements, lesquels occupaient trois immenses chambres à coucher. De faible stature, la défunte était toujours restée très mince, fine et élégante, de sorte que ses nièces se demandaient bien qui pourrait entrer dans ses habits. On aurait dit des vêtements de poupée. Les manteaux se vendraient, à la rigueur, mais que ferait-elle des robes ajustées? C'est sur la recommandation d'une amie que les deux sœurs avaient consulté le site internet de Style Fabulous, la boutique de Kate. Située dans le quartier de Soho à New York, cette véritable caverne d'Ali Baba avait gagné la réputation de plus beau et plus élégant magasin de vêtements de seconde main de toute la ville. Les articles étaient tous dans un état irréprochable, parfois jamais portés. Et si Kate proposait de façon anecdotique quelques pièces anciennes, l'essentiel de sa collection se composait d'articles récents, encore parfaitement au goût du jour. Rien de ridicule, de daté ou de défraîchi n'avait sa place dans sa boutique. Les clientes, fidèles depuis de longues années, savaient qu'elles trouveraient là des pièces iconiques qu'elles pourraient porter indéfiniment. Kate affectionnait Chanel et Yves Saint Laurent. Les créations de Gianfranco Ferré, à l'époque où il dessinait pour Dior, dans les années 80 et 90, et celle d'Oscar de la Renta pour Balmain. Sans oublier Christian Lacroix, aussi bien en prêt-à-porter qu'en haute couture. Kate regrettait encore la fermeture de cette belle maison. Givenchy figurait également en bonne place, avec des créations du grand couturier lui-même, mais aussi des modèles plus récents, dessinés par Alexander McQueen et Riccardo Tisci. Elle aimait proposer les œuvres de créateurs oubliés du grand public, morts pour certains dans les années 70 et 80, et d'autres plus récemment, alors qu'ils étaient au sommet de leur art, comme Patrick Kelly et Stephen Sprouse. Naturellement, Cela ne l'empêchait pas de vendre les valeurs sûres du prêt-à-porter américain. Donna Karan, Calvin Klein, Michael Kors, Oscar de la Renta ou encore Carolina Herrera. À l'occasion, il lui arrivait aussi d'avoir un coup de cœur pour des vêtements de marques méconnues, qu'elle n'acquérait pas pour leur étiquette, mais tout simplement parce qu'ils avaient du chien. Kate adorait cette expression française un peu désuète, décrivant ce je ne sais quoi qui donne immédiatement de l'allure à la femme qui porte le vêtement en question, pour peu qu'elle en ait l'audace. Kate s'approvisionnait enfin en basiques irréprochables, tels que petit manteau noir tout simple, blazer, jupe droite, cardigan et pantalon Prada aux tombées impeccables. Un seul mot suffisait à résumer sa collection. Intemporel. Bien qu'elle se souvienne de presque toutes les pièces exceptionnelles qui transitaient par Style Fabulous, Kate tenait un inventaire méticuleux de ce qu'elle avait acheté ou vendu, à qui et à quel prix. Certes, ces pièces de grands créateurs n'étaient pas données, mais c'était le juste prix. Arrivée devant la superbe demeure, Kate descendit de voiture et frappa deux coups vifs contre la porte à l'aide d'un lourd heurtoir en cuivre. Un instant plus tard, un majordome en veste blanche à mi-donnée apparut sur le seuil. Kate sentit une vague de fraîcheur l'envelopper. Ouf, la maison était climatisée. Elle ne se voyait pas trier les placards, en particulier les fourrures et les épais vêtements d'hiver, par une telle canicule. De toute évidence, elle était attendue. Le domestique la conduisit avec déférence jusqu'à une bibliothèque lambrissée. Les murs étaient tapissés de livres rares, à reliure de cuir, dont beaucoup devaient être des premières éditions et coûter une fortune. L'ensemble du fonds allait être vendu chez Christie's. Les deux héritières ne souhaitaient presque rien garder des biens de leur tante. Kate, qui avait déjà eu l'occasion de pénétrer dans de semblables demeures dans le cadre de son travail, n'était pas intimidée le moins du monde. Elle profitait du décor et de la superbe vue qui s'offrait à elle depuis les portes-fenêtres, sur les jardins impeccablement tenus. Quelques minutes plus tard, une discrète secrétaire fit son entrée en s'excusant de l'avoir fait patienter, puis l'amena jusqu'aux trois pièces fermées à clé qui servaient de dressing. L'employée fut impressionnée, mais guère surprise en découvrant le style à la fois sobre et affûté de la visiteuse, que sa réputation précédait. Kate Madison portait un tailleur Chanel en lin noir avec un col et des manches en piqué blanc, et un camélia assorti au revers de sa veste. Elle était grande, mince, avec de longs cheveux blonds et lisses, qu'elle relevait toujours en queue de cheval, ou comme ce jour-là, en un chignon parfait. On lui aurait sans problème donné 10 ans de moins que ses 53 ans, notamment en raison de sa silhouette longiligne qu'elle entretenait par la fréquentation régulière d'une salle de sport. Kate ouvrit de grands yeux quand la secrétaire alluma la lumière dans la première pièce. C'était encore plus extraordinaire qu'elle ne s'y attendait. Impeccablement suspendus à leur cintre, certains dans des housses individuelles, les vêtements emplissaient tout l'espace. À elle seule, les somptueuses fourrures occupaient plusieurs portants. Les murs s'ornaient de placards ouverts avec des étagères spéciales pour les chapeaux, les sacs à main et les chaussures, tandis que la lingerie sur mesure, les déshabillés en satin, les foulards et les gants étaient soigneusement rangés dans des tiroirs à compartiments. Une penderie était consacrée aux robes de soirée, dont la plupart ne seraient malheureusement d'aucune utilité à Kate. La majorité de ses clientes, même les plus mondaines, vivaient en effet de façon bien moins formelle que par le passé. Plus personne ne s'habillait ainsi pour un simple dîner entre amis. Kate choisirait peut-être une douzaine de ses robes. Or, il y en avait sans doute près de 200, dans toutes les teintes, noires, blanches, couleurs vives ou pastels, chacune avec sa pochette de soirée et ses escarpins assortis. L'un des placards contenait presque exclusivement des pièces des plus grands noms de la mode française, dont plusieurs issues de prestigieuses maisons de couture qui avaient depuis fermé leurs portes. Cet aspect historique ajoutait au caractère inestimable de la collection. Il y en avait pour une véritable fortune. Kate demanda à la secrétaire la permission de prendre des photos, ce qui lui fut accordé de bonne grâce. La jeune femme déclara en outre qu'elle pouvait rester aussi longtemps qu'elle le souhaitait. Kate sourit. Si cela ne tenait qu'à elle, elle aurait volontiers passé une semaine entière à tout examiner. Mais elle ne pouvait s'accorder que quelques heures pour faire sa sélection entre les articles destinés à ses clientes privées et ceux qu'elle exposerait dans sa boutique.